Nana ni naï naï naï, nana ni naï naï na. Dans cette belle vallée, j'écoute mes sœurs chanter. Elles chantent pour la vie, elles chantent pour dire merci. Nana ni naï naï naï, nana ni naï naï na.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Dans la toile du vivant, un podcast proposé par Aline Wauters et Mayana Wolf. Nous sommes aujourd'hui toutes les deux réunies pour explorer plus avant cette expérience de dialogue avec le vivant. Dans ce second épisode, nous allons explorer les tentatives de communication avec le vivant, qu'il s'agisse de plantes, d'arbres, d'êtres microscopiques ou d'animaux.
Aline, lorsque tu as lancé ce laboratoire et que tu as recherché des femmes partenaires susceptibles de rejoindre le laboratoire, tu as envoyé un petit poème que j'aimerais vous lire. Lorsque les animaux viendront à nous demandant de l'aide, saurons-nous ce qu'ils disent? Lorsque les plantes nous parleront dans leur langue délicate et jolie, serons-nous capables de leur répondre? Lorsque la planète elle-même chantera pour nous dans nos rêves, serons-nous capables de nous réveiller et d'agir? Donc ce petit poème, finalement, il en dit beaucoup sur le projet du laboratoire de dialogue avec le vivant. Et est-ce que tu peux élaborer sur comment ça, il a pris corps finalement dans cette expérience?
Oui, ça a été une sacrée aventure, hein, parce que je pense qu'on avait toutes vraiment des projections sur qu'est-ce qui serait possible ou pas. Et on s'est quand même assez rapidement senties toutes un peu handicapées de faire ce qu'on voulait faire. Un peu stupéfaite de ne pas avoir une baguette magique finalement pour y arriver. Jusqu'à ce qu'on comprenne que cet effort lié au temps. Et on avait besoin de se dépouiller de notre manière de vivre avec le temps et de faire comme le petit prince.
Avec le renard.
Le renard qui dit au petit prince, ça se fait pas comme ça. Enfin, tu vois, moi, on m'approche pas comme ça. Il faudra que tu viennes et que tu reviennes et que tu reviennes encore. Et quand je serai mûre, quelque chose se passera. Et donc, il a fallu accepter ça. Hein, de rentrer là-dedans et puis de rentrer aussi dans un arbre n'est pas juste un arbre. Chaque arbre a son identité, chaque chèvre a son identité, chaque oiseau a son identité, chaque humain a son identité. Et y a peut-être bien des arbres qui ont envie de communiquer avec nous, puis d'autres pas. Tout comme il y a des humains qui sont ouverts à ça, puis d'autres pas. Donc il a fallu avoir une... faire un petit pas en arrière, se dépouiller de « il faut y arriver et c'est aujourd'hui qu'on a un atelier, c'est pas demain », enfin, tu vois. Et rentrer dans le fait d'oser prendre le temps d'approcher l'autre, c'est-à-dire de lui donner du temps, et de l'attention, comme on le ferait avec n'importe quel autre vivant humain, en fait. Mm-hmm. Du temps, de l'attention, des rendez-vous, s'approcher doucement, que l'autre ait confiance, qu'on soit en sécurité, qu'on ne vient pas avec avidité. Donc voilà, ça a pris du temps. Alors je pense que ça a été intéressant parce qu'au début, comme ça prenait du temps, on a eu besoin de rentrer dans quelque chose avec lequel on jonglait plus facilement, qui sont les voyages au tambour, mm-hmm. à la rencontre de ces êtres en esprit. Mm-hmm. Parce que là, on savait qu'à chaque voyage en tambour, on était capable de basculer, de faire ces rencontres, etc. Et du coup, c'est intéressant. Donc, dans un premier temps, on a un petit groupe de quatre, on a basculé là-dedans. On avait rendez-vous tous les matins, 6h du matin. Et on faisait, on avait choisi une espèce, on voulait aller à la rencontre des abeilles. Mmh. Et du coup, on partait faire ce voyage au tambour, et puis on revenait, on s'asseyait ensemble, on discutait de tous les enseignements qu'on avait reçus, les images, tout ce qu'on avait compris. Et tant et si bien qu'à un moment, des voisins de la vallée, plus ou moins la vallée d'à côté, qui avaient des abeilles, nous ont demandé... si on voulait avoir un essaim. Ils avaient un essaim de trop et ils avaient une ruche adéquate pour le mettre dedans. Et donc, c'était comme si l'un avait appelé l'autre. C'était tout beau. Et donc, du jour au lendemain, on a eu un essaim dans une ruche avec... alors, on a dit oui, mais nous, on n'est pas intéressés par la production de miel, quoi. Je veux dire, on est intéressés par pouvoir aller les écouter, s'asseoir près d'eux, les voir voler, voir si on sait communiquer avec elles, etc. Donc, ça a été... Un premier chemin comme ça. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment, alors qu'on faisait systématiquement, on faisait des cycles de 21 jours. Donc tous les matins, on était parti pour ça. Un matin, on met le tambour en route et le renard, qui était l'animal totem symbolique qui m'amenait toujours aux abeilles, ne m'amène pas aux abeilles. Il me perd en chemin, et je me retrouve avec une porte de bascule dans les mondes, chez les moustiques. un peu stupéfaite. Et donc voilà, je suis rentrée dans un voyage dont je vous passerai les détails absolument extraordinaires, d'être initiée quelque part par les moustiques, et d'être expliquée sur le fait que les abeilles, tout le monde les aime. Et tout le monde comprend le rôle écosystémique, mais les moustiques, tout le monde les déteste et personne ne comprend leur rôle écosystémique, et que eux, ils sont moustiques et qu'ils ont un rôle super important dans l'écosystème, et que il faut quelqu'un qui soit médiateur, quoi. Donc donc voilà, j'ai commencé en tout cas une longue rencontre avec les moustiques qui m'a amené peu à peu aussi à accepter, quand j'étais piquée par un insecte, peu importe lequel il soit, qu'il soit un moustique ou une guêpe ou autre, de rentrer dans la pratique de gratitude. Je viens de recevoir la médecine de cet insecte. Et au lieu de me dire « merde, je me suis fait piquer », de rentrer dans autre chose, de me dire « je viens de recevoir la médecine, gratitude, qu'est-ce que je vais apprendre ?» Donc, voilà, ce sont des choses qui viennent sur le chemin, on ne s'y attend pas. Des choses particulières comme ça qui viennent sur le chemin. Donc là, ça a été un truc qui me poursuit encore aujourd'hui. À un moment, j'ai été piquée par une tique et j'ai attrapé la borrélia, enfin j'ai attrapé l'érythème. Un érythème qui normalement dure une ou deux semaines, et chez moi il a duré 17 semaines, donc il a été énorme. Mais tout de suite, j'ai pas eu peur, tout de suite, je reçois la médecine de la borrélia. Et qu'est-ce qu'elle a à m'enseigner? Et je me suis intéressée à elle, et je me suis dit, wow, en temps de Covid, en tout cas, elle a des trucs de dingue à m'enseigner. Et donc je suis restée comme ça en conscience avec elle. Et un jour, je lui ai demandé, tiens, comment est-ce que je serais que tu n'es plus là? Et elle m'a dit, tu penseras plus à moi. Et donc des mois plus tard, il y a un petit groupe des mycéliums qui sont venus pour 4 jours. Et puis, sachant que j'avais eu ça, il y a l'heure où t'en es avec ton érythème et tout. Et j'ai fait, oh, je n'y pensais plus. Et voilà, et ça avait disparu. Et je n'ai jamais eu de conséquences. Mais par contre, j'ai eu beaucoup d'enseignements. Donc voilà, c'est pas passé par le chevreuil, le sanglier, et je sais pas où est le grand hibou, mais c'est passé par le moustique et la borrélia. Donc enfin, c'était très particulier, quoi.
Et alors, c'est quoi le rôle écosystémique des moustiques?
Le rôle écosystémique des moustiques, c'est de nourrir l'écosystème. Parce qu'en fait, ils pondent des œufs, mais par milliers. Mais en fait, ils nourrissent les poissons. Ils nourrissent les chauves-souris, ils nourrissent les oiseaux, ils nourrissent les grenouilles. Et en fait, il reste assez peu d'œufs qui deviennent des moustiques. Donc, ils jouent un rôle de nourriture qui est énorme. Si les moustiques disparaissent, il y a énormément d'espèces qui en pâtissent. Ils sont vraiment dans une générosité énorme et connue d'eux-mêmes. Donc, c'est très touchant, en fait. Ouais.
Donc Aline, tu nous as beaucoup parlé de communication avec les animaux. Est-ce que vous avez aussi communiqué avec les plantes, avec le monde végétal?
Oui, ben, c'est vrai qu'au départ, ça s'est plus passé avec les arbres, parce que ça paraît plus, je sais pas, tout le monde a envie de communiquer avec les arbres ou quoi, mais il y a quand même eu plusieurs personnes dans le groupe qui, dès le départ, avaient une faveur pour les plantes nourricières ou les plantes médicinales et les plantes médecines. Et donc, il y a eu quand même des apprentissages collectifs, des explorations, des expériences collectives à l'approche de certaines plantes médecines. Et ça a été très, pour moi, ça a été très, très enseignant. Parce que même le tabac, en fait, est une plante médecine. Et c'est une plante médiatrice vers toutes les autres plantes médecines. Et de pouvoir approcher le tabac de manière sacrée, de manière ritualisée, de manière humble, de l'approcher avec humilité pour lui demander son enseignement et recevoir en humilité l'enseignement d'une autre espèce qui est sur Terre depuis vachement plus longtemps que l'humanité. Tout ce parcours, je l'ai trouvé d'une richesse incroyable. Et je me disais, mon Dieu, mais le nombre de gens qui fument sur cette planète, si du jour au lendemain, ils pouvaient changer leur vision sur qui est le tabac. Mais des choses immenses pourraient basculer sur cette planète, en fait. Tu vois, juste avec ce changement de vision. Mais en fait, mais qui est le tabac? Et quelle est cette chance que j'ai de pouvoir rentrer en lien et en contact avec lui? Et comment je le fais? Comment je m'approche de lui en toute humilité? Comment je lui dis que je viens dans la paix? Comment je lui dis que j'aimerais d'être enseignée? Comment j'ose me mettre comme celui qui va recevoir l'enseignement? Voilà, tout ça, moi, j'ai trouvé formidable. On a eu l'occasion de vivre avec le tabac, avec le cacao, avec la sauge. Voilà, il y en a qui l'ont fait avec la cardère, il y en a qui l'ont fait avec le pissenlit, il y en a qui l'ont... voilà, mais tout, de basculer dans... juste prendre une plante pour une chose, finalement, avec peut-être une définition médicale de qu'est-ce qu'elle peut me permettre. Et tout à coup, de rentrer en relation avec un être qui est sur Terre depuis tellement plus longtemps que moi, et de me mettre dans cette position de j'aimerais d'être enseignée. Eh bien, j'ai trouvé ça énorme. Vraiment, j'ai trouvé ça énorme. J'avais testé la communication animale avant, mais je n'étais pas rentrée dans un lien avec les plantes comme ça.
Alors, qu'est-ce que ça serait ce basculement pour les fumeurs?
Alors après, je pense que ça reste individuel, le basculement, mais en tout cas, de ce que j'en ai appris, et c'est intéressant parce que c'est l'inverse de ce qui est vécu quand on fume dans la conscience. En tout cas, moi qui ne fume pas, hein, si je fume une cigarette, j'y perds mes jambes. Hein, donc il faut absolument que je m'asseye, sinon je tombe par terre. Hein, donc, enfin, mais si je fume en conscience, avec grand-père tabac, je comprends que c'est lui qui permet l'enracinement. Exactement le contraire, en fait. Et si il est pris comme plante médiatrice par rapport aux autres plantes médecines, c'est parce qu'il faut un enracinement pour ne pas s'envoler. Tu comprends? Donc c'est une plante qui enracine quand on est en contact et en collaboration avec lui dans la conscience.
D'accord.
Et beaucoup de gens fument pour s'échapper. Hein? Alors que la puissance de grand-père tabac, quelque part, si on a envie de le nommer comme ça, c'est enraciné. Et donc, il se passe alors tout autre chose en toi. Et moi, la toute première fois que j'ai passé une nuit seule avec grand-père tabac, devant le feu, en fumant juste une cigarette de tabac cultivée avec respect, etc. Je me suis retrouvée aussi en lien avec la puissance du masculin. Et comme j'avais le réflexe de l'appeler grand-père, je me suis retrouvée avec un grand-père avec qui j'avais jamais eu de lien. J'ai jamais eu de lien avec mes grands-pères. J'ai jamais eu une conversation avec mes grands-pères. Ils étaient là, mais sans lien avec moi. Et j'ai passé une nuit entière comme ça, à lui demander de me laisser sentir c'était quoi d'avoir un grand-père. C'était quoi cette force du masculin sage du grand-père? Comment ça pouvait me sécuriser, m'enraciner, me tenir. Et c'était juste magnifique. Et donc, voilà, c'est pour dire. Et après, je pense que on a ça dans chaque espèce végétale. Et quand tu bois un verre de vin, moi qui ne bois pas beaucoup, au bout de deux verres, je sens quelque chose qui se passe. Et maintenant, j'ai le réflexe, quand je sens quelque chose qui se passe et que j'ai oublié d'avoir la conscience d'être en gratitude avec l'esprit de la vigne avant de prendre ma première gorgée, et bien tout à coup, elle vient, c'est comme si elle venait me dire « Bon, je suis bien en toi maintenant, hein. T'as senti que je suis chez toi là, je suis dans ta maison là, enfin tu vois. Et donc, ah oui, excuse-moi, j'ai oublié de t'accueillir. Ah ben oui, t'es là, puis j'ai choisi que tu sois là. » Et alors, en conscience, je peux, comment dire, elle me désinhibe comme elle désinhibe n'importe qui, mais je peux la remercier, enfin, tu vois. Et alors, il se passe quelque chose d'autre que de devenir un peu bitu avec le temps, tu comprends. Il y a la conscience que j'ai accepté en moi l'esprit de la vigne et qu'elle est en train de m'aider peut-être à dire ou à faire des choses que j'ose pas dire sans elle. Mais je suis dans la gratitude et la conscience que c'est elle qui m'aide à le faire. Et ça change tout, en fait. Ça change tout. Mais tu peux le faire avec le jus de pomme, tu peux le faire avec, avec l'eau de cerise, j'en sais rien. Mais à un moment, même si tu ne l'as pas fait à la première gorgée, comme ce soir, là, quand je parle, il y a quelque chose que tu sens qui vient toucher ton âme. Et au lieu d'avoir peur que physiologiquement tu es en train d'être atteinte chimiquement par l'effet de l'alcool, tu peux rentrer dans ce changement de vision qui est « elle touche ton âme ». Et elle est en train de te parler parce qu'elle t'habite. Et alors il y a toute autre chose qui se passe. Et
de l'ordre de la coopération.
De l'ordre de la coopération, mais aussi de la présence de l'autre, tu vois, que j'ai invité à l'intérieur de moi. Et qui te rappelle que c'est pas rien d'inviter l'étranger à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu fais une fois que l'étranger est en toi? Son esprit est là, hein, tu comprends, donc qu'est-ce que tu fais? Et alors, soit tu as peur, soit tu... Enfin voilà, il y a plein de possibilités, mais la plus belle des possibilités, c'est la collaboration. Après, on avait fait une proposition qui peut être débutée par n'importe qui est de l'ordre du petit prince et du renard, qui est de dire, choisissez un arbre qui est chez vous, et même si vous n'avez pas un arbre chez vous, parce que vous êtes dans un appartement, optez pour une plante d'intérieur qui est à l'intérieur chez vous, et offrez-vous de passer quelques minutes, tous les jours de cette année, avec cet arbre ou cette plante.
Donc ça, c'était une proposition pour les membres du mycélium.
C'était une proposition pour tous les membres du mycélium et de dire, mais on peut tous commencer par quelque chose et prenez le temps d'observer qu'est-ce qui va se modifier pour vous dans cette relation à cette plante, à cet arbre. Et j'avais lu une histoire absolument magnifique, le témoignage d'une femme... qui se battait beaucoup pour le respect du végétal et le respect du vivant de manière générale, et elle écrivait une thèse de doctorat là-dessus. Et en fait, elle avait une plante tropicale dans son appartement, et c'est des plantes tropicales qui, une fois qu'elles sont dans l'appartement, elles ne peuvent pas fleurir. Mais sa plante, à elle, elle fleurissait chaque année. Mais elle ne savait pas que normalement, elle ne pouvait pas fleurir. Et il y a eu toute une histoire comme ça avec cette plante qui fleurissait. Elle s'y intéressait comme une biologiste. Et puis, pendant qu'elle était affairée à terminer sa thèse, elle n'a plus fait attention à cette plante. Et le soir où elle est revenue d'avoir rendu sa thèse, elle a senti une odeur très forte. Elle a reconnu l'odeur de la fleur de cette plante. Et elle s'est demandé ce qui se passait. Elle est allée voir et il y avait une hampe florale énorme. Et il y avait comme un acte de reconnaissance, c'était la manière dont la plante avait... Elle a tout de suite compris que c'était un acte de reconnaissance et de gratitude. Ça ne s'explique pas, ça se sent. Mais donc, comment déployer une observation fine et affectueuse avec le monde végétal et animal pour comprendre que ce qui se passe est un dialogue. Mmh. Hein? Et pas, bah tiens, tout à coup, bah, quelle étrange plante, ou bien tiens, quel phénomène. Enfin, comment, tout doucement, parce que tu crées du lien quelque part affectif, parce que tu donnes ton temps réellement en conscience à une plante ou à un animal, quelque chose se développe, quelque chose de précieux qui est un lien en fait, hein, qui est un lien énergétique, qui, quelque part de cœur à cœur, qui se crée. Et alors du coup, il y a décryptage possible d'un dialogue. Hein. Et voilà, et ça, ça va venir surprendre chacun dans des formes très, très, très différentes. Et selon qui on est, le type de relation qu'on mène, et puis aussi selon les portes d'entrée qu'on a. Il y en a qui ont l'odorat très développé, d'autres l'ouïe, d'autres la vue, d'autres le goût. Voilà, selon les personnes aussi, ça va prendre des chemins très, très différents, en fait.
Donc, ce n'est pas par les mots, mais ça va être par les sens.
Ce n'est pas par les mots, mais on peut entendre des choses. Moi, je me souviens d'une nuit que j'ai passée sous un chêne. Je me rappelle, c'était un 19 juin, parce que quand même, ça m'a fort marqué. J'avais passé la nuit sous le chêne, et au petit matin, vers 5 heures du matin, j'ai senti que les moustiques, qui étaient devenus vraiment des collaborateurs, m'invitaient à me rendormir. Et je me suis rendormie. Et quand je me suis réveillée, j'ai eu un message du chêne. Tout doucement, un an plus tard, plus qu'un an plus tard, je commence à décrypter qu'est-ce que c'était le message. Mais n'empêche que c'était auditif. Tu comprends ? C'était des phrases très claires, en fait. Et j'en ai pas eu des tonnes, des phrases très claires comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le chêne et moi par médiation des moustiques ? Vraiment, ils étaient très présents. C'est eux qui m'ont ramené à dormir encore. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? D'une personne à l'autre, tu vas avoir des gens qui vont ramener des messages très très différents. Et parfois, c'est des messages vraiment que pour toi. Mm-hmm. Ou bien c'est des messages plus larges. Voilà, ça dépend beaucoup de l'intention qui est plantée dans ton cœur. Mm-hmm. Et ce que tu cherches. Et le temps d'amour, en fait. Hein. Après, cette année-là, je me rends compte qu'on ne peut dialoguer, c'est pareil avec les humains, que quand on aime. Mm-hmm. Tu vois ? Si j'ai peur de quelque chose, que je m'en défends, même d'un humain, mais je ne peux pas dialoguer avec, en fait. Donc, pour dialoguer, il faut un minimum d'amour de l'autre, en fait. Hein. Et donc, je pense que le dialogue universel, télépathique, entre toutes choses, il passe par ce temps amoureux, ce temps
par
qu'on
le
offre,
cœur,
qu'on
par
offre
le cœur.
À l'autre, par le cœur, en fait. Ouais. On a aussi exploré... de la communication à distance avec des animaux qu'on avait laissés chez nous, hein, chiens et chats en particulier, mais aussi tortues. Et là, ça a été vraiment très beau de sentir qu'on était vraiment dans une communication particulière. Donc, on se réunissait à 3, 4, 5, et puis on partait en esprit, en lien avec cet animal. On commençait toujours par lui demander de lui montrer notre environnement. Il n'y en avait qu'une seule d'entre nous qui savait à quoi ressemblait cet environnement. Pour être sûr après qu'on ne se raconte pas n'importe quoi, qu'on avait bien été voir le bon chien ou le bon chat. Et puis ensuite, par exemple, à un moment, il y avait de la communication avec un chien que j'avais laissé ici à la maison, et pour savoir qu'est-ce qui se passait pour lui en fait. Et donc, comment il allait, qu'est-ce qui se passait pour lui, comment il vivait cette séparation et tout ça. Et c'était vraiment toujours très, très émouvant, en fait, d'entendre, quand on était 4 ou 5, que le message devenait complètement complet quand on était ensemble. Qu'il était cohérent, qu'il était complet et qu'il était logique, compréhensible. Et que du coup, on pouvait faire quelque chose. Donc ça a été vraiment passionnant. Quand on partageait, ben on finissait par se dire, bah oui, c'était bien chez Aline, puisque c'était comme ceci, comme cela, en croisant toutes les informations données par toutes. C'était, mais c'est dingue, oui, on a vu chez Aline, quoi. Et puis sur part de ça, la confiance qui est là, bah oui, on n'est pas en train de se leurrer, etc. Et puis alors, du coup, bah, de se dire, bah, si on ne sait pas leurrer là-dessus, on ne se leurre pas non plus sur ce que le chien nous a transmis comme information. Donc ça a été une pratique qui était vraiment très riche et que je continue de pratiquer aujourd'hui à distance.
Qu'est-ce que tu veux dire par on peut faire quelque chose?
Bah, c'est-à-dire que on sait que le chien va pas bien, par exemple, tu vois, quelqu'un de la famille m'appelait en me disant bah, le chien ça va pas, ceci, ceci, cela. Et donc moi, d'être en communication avec le chien et de dire tiens, il se passe ça et ça et ça, qu'est-ce qui se passe? Et le chien de pouvoir me répondre. Me dire, mais dans le fond, moi je suis maintenant dans une situation où je ne sais jamais quand on va me nourrir, je ne sais jamais quand on va me balader, je ne sais jamais qui va me garder, c'est compliqué pour moi.
D'accord.
Et donc, voilà, il y a donc des comportements qui sont, voilà, qui sont incohérents, mais la manière dont on s'occupe de moi est incohérente aussi. On ne me communique pas non plus sur qu'est-ce qui va se passer pour moi. Donc, comprendre ça, pouvoir le dire à la famille, de dire, ben voilà, il aurait besoin de régularité, il aurait besoin que ce soit ta-ta-ta-ta. Donc voilà, c'est juste...
Et ça a permis de revenir...
Et ça
dans
a
l'ordre.
Permis de vraiment le sécuriser fort. Tu vois?
Ok.
Et donc,
super.
Voilà, ça a été des choses comme ça, en fait. Et à un moment, il y avait un chat qui avait disparu. Et je ne sais plus comment ça s'était résolu aussi, mais c'était étonnant, en fait. Je devrais me souvenir, mais... Bon, voilà. Ça permet, en tout cas, cette communication à distance. C'est simple, extrêmement simple. Mais ça demande juste du temps, de la présence et puis de la confiance qu'on a tous, ces capacités, en fait, hein.
Et comment vous avez appris ça? Il y avait quelqu'un dans votre
Donc
groupe?
Moi, j'avais suivi quelques ateliers de communication animale des années auparavant, que j'avais déjà un peu testé avec mes chiens. Et donc, j'ai enseigné les protocoles au groupe, enfin, celle du groupe qui avait envie. Et puis, on les a pratiqués, quoi. Et puis,
okay.
C'est tout.
Et tu peux nous parler de comment ça s'est passé avec les chèvres pour, prendre, voilà, pour tirer le lait?
Oui, donc c'était pas tout simple parce que on était dans cette idée qu'on voulait pas exploiter les animaux et tout ça. Donc quand même la manière dont on met la chèvre en général, on l'attrape au niveau du cou et puis après ben voilà, on la prend par derrière, hein, on la traite par derrière et tout ça. Donc on était un peu à se dire wow, est-ce qu'on accepte ça? Comment on fait, etc. Donc on a eu des approches différentes. On est arrivé en chantant, en leur offrant un chant. Il y en a qui leur offraient tu vois, des caresses énergétiques. Il y en avait qui leur parlaient en les remerciant. Il y en avait qui ont essayé, et pour certaines ça marchait, d'autres ça marchait pas, de les mettre dans d'autres positions où elles pouvaient... pour certaines chefs ça marchait, certaines chefs ça marchait pas du tout. Donc je crois que ça a été un peu un casse-tête. Jusqu'au bout, en fait. Ça n'a pas été simple, même quand on sentait qu'on faisait tout ce qu'on pouvait. On sentait que ce n'était pas suffisant, qu'il y avait quelque chose dans cette domestication où il n'y avait pas assez de donnant-donnant. Hein? Mais voilà, ça nous a permis d'essayer des choses, de pratiquer des choses... On a eu beaucoup de... Pendant notre séjour, il y a eu quand même 5 chèvres qui sont mortes.
Ah.
Il y a eu des adultes morts, il y a eu des bébés morts. Donc, voilà, à se poser la question. Elles étaient dans un environnement qui n'est pas un environnement de chèvres, très humide, un peu marécageux, pas assez de roches et de minéraux. Après, ce n'était pas nos chèvres. Mais donc, se questionner sur est-ce qu'il est juste d'amener des animaux comme ça dans un milieu qui est pas le leur. Mais bon, on amène des humains dans un tas d'environnements qui n'est pas le leur. Est-ce que l'adaptation est là? Est-ce que... Voilà, ça nous a beaucoup posé de questions. Après, ça nous a amené dans des très belles choses aussi, c'est-à-dire l'accompagnement de la mort. Qu'est-ce qu'on fait quand une chèvre meurt? Est-ce qu'on la bac? Est-ce qu'on fait un rituel? Quel genre de rituel on fait? Qu'est-ce qui fait sens? Est-ce qu'on va la déposer en forêt avec des prières et des chants? Est-ce qu'on l'enterre? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça nous a donné aussi l'occasion de générer des rituels à chaque fois différents par rapport à chaque chèvre. Et aussi, les petits chevreaux qui sont morts, nous sont morts dans les bras. Donc, d'accompagner ça aussi. C'est quoi une vie qui s'en va aussi vite? Qu'est-ce qu'elle est venue nous enseigner? Voilà. Et est-ce que c'est juste que c'est nous qui les ayons dans les bras ou bien est-ce qu'il faudrait les laisser parmi les chèvres? Enfin, ça nous a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Mais donc... Donc merci parce que ça nous a amené dans beaucoup de questions fondamentales en fait, vraiment profondes et de sentir à l'intérieur aussi si les rituels ou les gestes qu'on avait faits nous mettaient la conscience en paix ou pas, de pouvoir aller là. Et si ça ne nous mettait pas la conscience en paix, c'était quoi alors? Qu'est-ce qui avait manqué ou qu'est-ce qui n'était pas juste ou, voilà, c'était l'animal domestique, c'est très particulier. Hein. On a eu ça avec les poules aussi, tu vois, par exemple, quand il y a eu les grandes inondations, eh bien, les poules, elles se sont enfermées la nuit. Eh bien, il y en a deux qui se sont noyées
Ah.
parce qu'elles ne
Ça peut
savaient
pas
pas, elles savaient
partir.
Pas s'échapper, tu vois. Donc, ah, t'es là, enfin, ça pose plein de questions. Hein. Alors qu'elles étaient libres en journée, hein. Donc vraiment libres, pas dans un enclos, vraiment libres. On avait vraiment l'occasion de les voir vivre. Elles sont très curieuses, les poules. Elles adoraient rentrer dans la cuisine. Elles étaient voilà, rentrées dans notre bibliothèque. Enfin, je veux dire, donc on avait comme ça un autre accès aux poules, un autre regard sur les poules. Et puis voilà qu'on les enferme la nuit, du coup, ils ne savent pas s'échapper, alors que c'est pour les protéger. Ah non.
Et tout à l'heure, tu disais que bah, le dialogue avec les non-humains, il passe comme avec les humains par le cœur. Et avant ça, avant même l'amour, finalement, le respect. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment ça s'est exprimé, ce respect?
C'est-à-dire qu'en tout cas, à la base, comme dans toutes les traversées que je mène avec les femmes, si on vient camper, on prend un temps avec le lieu où on va camper, hein, pour dire qu'on vient dans la paix, qu'on s'excuse, mais qu'on vient pour approfondir notre lien avec le vivant. Et donc, on ne vient pas en colon, on ne dit pas, ouais, là, c'est un super spot, je vais mettre ma tente là, trop bien. Alors, oui, on va peut-être quand même choisir ce lieu-là, mais on va prendre un temps, un petit temps de recul, hein, pour dire, bon, ben voilà, on vient pour ça. On a fait ça tout au début aussi, quand on est arrivé. Bon, il pleuvait beaucoup, il faisait froid, donc et on est arrivé au mois de mars, donc c'était pas si facile de se dire, allez, on met les tentes et tout ça, parce que surtout que c'était une zone assez marécageuse. Mais en fait, on a profité de tout ce temps pour tisser du lien avec le territoire, sentir où ce serait vraiment bien de mettre le camp. Et puis, la veille d'y aller, on a vraiment passé du temps sur le spot où on allait vraiment mettre les tentes. Voilà, à être là, en lien avec ce territoire-là, toutes les espèces qui vivaient là, petites et grandes, visibles et invisibles, pour dire, ben, on vient, mais on vient dans la paix, on vient prendre le temps de tisser du lien avec vous. Donc ça me paraît être un des actes de base qu'on fait à tout moment. Je vais en forêt, au moment de rentrer dans la forêt, voilà, je dis bonjour à la forêt, je lui dis que je viens dans la paix. Et quand je quitte la forêt, je remercie la forêt pour ce temps passé en elle, et puis je sors. Donc avec le temps, ça devient comme ça un rituel qui te semble normal, mais qui n'était pas dans ta vie avant. Enfin, tu vois,
C'est ça.
et ça a grandi ton cercle de relations. Et c'est bon. C'est bon d'arriver à l'orée de forêt et dire bonjour grand-mère, ça fait longtemps que je ne suis pas venue, je suis vraiment contente de venir, puis j'aimerais vraiment bien que tu me prennes dans les bras parce que j'en ai vraiment besoin. Et puis je sais qu'à chaque fois que je viens, après, je me sens tellement mieux, merci, merci. Enfin, ça change tout. De créer du lien affectif, presque de filiation, avec le reste du vivant. Et on sait bien qu'on n'est jamais seul, mais ça le matérialise quelque part, tu vois, ça le rend tangible en fait.
C'est ça, vous êtes vraiment inscrite dans la toile de la vie.
Oui. Puis ça rend ta relation avec tous les êtres tangible et en filiation. Ouais.
Donc on peut dire que le laboratoire de dialogue avec le vivant a atteint son objectif.
Oui, je pense, même si ça n'a ressemblé en rien à ce que je pensais. Il y a eu un moment qui était très, 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 très beau. Quand il y a eu les inondations, nous, on était dans une petite vallée marécageuse et notre vallée a été comme un fleuve. Hein, donc, et de l'autre côté de notre camp, il y avait des barrières en bois derrière laquelle il y a un élevage de chevaux. Et il y avait 8 pouliches avec 12 poulains. Et ils avaient de l'eau jusqu'au ventre. Enfin, ils étaient. Et les mères étaient très très anxieuses. La rivière avait tellement gonflé qu'elles ne savaient plus passer la rivière pour aller sur les versants en hauteur. Et donc, le propriétaire est arrivé, on a dû casser les barrières, elles ont dû passer par le camp qui était sous eau aussi, mais elles ont dû accepter que nous allions vers elles, qu'on leur mette juste un petit licou, juste une petite corde autour du cou pour les amener à travers les tentes et les faire traverser la vallée. Et vraiment, quand on est arrivé, moi j'ai un souvenir d'être regardée dans les yeux par cette pouliche avec « Fais vite, je te fais confiance ». Mais vraiment fort, enfin, j'en frissonne là encore à te le dire, mais ce regard « Je te fais confiance, mais s'il te plaît, fais vite ». Les bébés là, ça va pas quoi, tu vois. Et donc c'était super émouvant parce que les cordes des tentes étaient sous eau, donc il fallait faire super attention où on allait passer avec le petit troupeau, si tu veux, petit et grand. Et je me rappelle, c'était absolument ridicule, je portais des bottes, mais j'avais de l'eau jusqu'à mes cuisses, donc j'avais l'eau plein les bottes en fait, donc j'avançais très difficilement et la pouliche était un peu énervée que je n'avance pas plus vite que ça parce que son bébé, lui, était emporté par les eaux. Et donc, à un moment, je l'ai regardée et je dis, mais franchement, je ne vois pas pourquoi je te tiens. Vas-y. Et je l'ai lâchée. Et elle a bondi comme ça, mais tu sais, comme les chevaux en Camargue dans les films. Là, elle a bondi derrière son poulain. Et je pleurais. Je rajoutais de l'eau à la barre. Je pleurais de grâce. Tu vois, mais d'avoir senti cette confiance, cette patience qu'elle avait, et puis cette libération. Et je sentais qu'il n'y avait vraiment pas de problème. Quand elle aurait récupéré son poulain, elle s'arrêterait. Enfin, tu vois, personne n'allait fuguer dans un état pareil, tu vois. Et donc, ça a été vraiment très, très, très beau. Puis, elles se sont toutes réfugiées au même endroit, parmi les moutons et les chèvres qui s'étaient réfugiées. Et puis, il a fallu les ramener à pied à travers les terres. Et là, c'était pareil, les poulains n'avaient jamais été sur des routes. Et on sentait les mers qui devenaient des montagnes de calme pour que les poulains restent calmes. Et vraiment, donc, les poulains n'étaient pas attachés, rien. Donc, ils se trimbalaient entre les pouliches qui étaient tenues juste par une petite corde au cou. Et on sentait la puissance des mers qui émanaient leur enracinement profond pour que les poulains fassent pas n'importe quoi. C'était juste magnifique. C'était magnifique.
Merci pour toutes ces exemples en fait concrets qui nous permettent de sentir à quel point vous vous êtes rapprochés de ces non-humains. Merci Aline.
Merci à toi de me rappeler tout ça.
Chers auditeurs et auditrices, merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cet épisode. Nous vous invitons à en parler autour de vous et à nous retrouver pour de futurs épisodes dans la toile du vivant.